Je reprends très brièvement la parole, surtout pour remercier nos deux collègues juristes qui se sont pliés à cet exercice quasi impossible, puisque dans un cas, c'était 60 ans de jurisprudence hein, entre la création de la République fédérale en 1949 et cette jurisprudence de 2009, et dans le cas d'Olivier Kella, trois quarts de siècle, même plus, depuis l'arrêt Benjamin, que je leur ai demandé pour vous de résumer en quelques minutes. Donc la parole va maintenant vous être proposée. Je pense qu'il y aura de la discussion. Je voulais juste ajouter une petite ma lecture de l'arrêt Hoffmann-Glemann, qui, moi, il m'a semblé ce qui était le plus important, le plus significatif, c'était le fait que le juge, donc Madame Hoffmann-Glemann, le père de Madame Hoffmann-Glemann avait été déporté, n'est pas revenu, donc elle s'est tournée vers le juge judiciaire pour ce qui concerne la SNCF, responsable des convois, qui avait été le transporteur, et vers l'État français qui avait ordonné ces transports, et donc le juge administratif pour demander une réparation, y compris fût-ce une réparation pécuniaire. Et le juge, donc le Conseil d'État, dans cet avis, a estimé cette espèce de théorie un peu sordide, si on peut dire, du bilan. Voilà tout ce qui a été fait depuis la libération, voici les restitutions, voici ce qu'on a pu faire, voici la création de la commission Mattéoli, de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, voici le discours qu'a tenu le président de la République, et en disant, au fond, eh bien, matériellement, on ne peut guère faire plus, mais voilà quand même ce que rajoute, et j'allais dire, si la vie s'était arrêtée là, c'était un peu sordide, oui. Enfin, mais voilà ce que rajoute le Conseil d'État. La réparation des souffrances exceptionnelles endurées par les personnes victimes des persécutions antisémites ne pouvait toutefois se borner à des mesures d'ordre financier. Elle appelait la reconnaissance solennelle du préjudice collectivement subi par ces personnes, du rôle joué par l'État dans leur déportation, ainsi que du souvenir que doivent à jamais laisser dans la mémoire de la nation leurs souffrances et celles de leur famille. Et s'ensuit, le Conseil d'État dit, puisque le président de la République l'a solennellement reconnu, et on était à une époque où le président d'alors, qui était Nicolas Sarkozy, commence à dire oui, mais est-ce que véritablement c'est la France? Est-ce que ce ne sont pas les Allemands? Et donc, je crois qu'il y a eu une volonté politique, d'où sans doute le recours un peu malencontreux à l'idée de cohésion nationale, mais de dire cet événement, le symbolique fait pleinement partie du juridique. Si on veut faire le total, il faut aussi mettre le symbolique et cette reconnaissance de la nation, donc sans doute cette articulation dignité et cohésion, à mon sens, vient de là. Et c'est pour ça que cet arrêt a été cité. Et évidemment, l'arrêt ne parle que de ce que l'avis ne parle que de ce que lui demande. Mais imaginons qu'en France existe, comme il existe aux États-Unis, des suprématistes blancs et qu'un comique, avec tous les guillemets que vous pouvez imaginer, suprématiste, exprime bon, ce que vous pouvez penser, des plaisanteries sur l'infériorité des autres races par rapport à la race blanche. On ne voit pas bien pourquoi le type de raisonnement qui a été tenu là ne le serait pas. Mais enfin bon, là, on est dans de la casuistique théorique et conditionnelle. Voilà, c'était un peu mes premières réflexions à ce que j'ai entendu. Et je vous propose maintenant que la parole vous soit enfin donnée.
Merci. J'ai été très intéressé, mais n'étant pas du tout juriste, je fais trois remarques fort rapides d'ordre logique, moral et politique. D'ordre logique, parce qu'il y avait une contradiction quand même chez Valls dans le fait de traiter les Roms une semaine comme une population incapable de s'adapter et la semaine d'après de prendre la position qu'il a prise dans des fins d'ambition personnelle. Donc ça, c'est ma deuxième remarque d'ordre moral. Enfin, d'ordre politique, les commémorations du judéocide ne doivent pas faire l'objet d'une récupération conservatrice, comme l'a dit Enzo Traverso, la réunion de ce soir prouve qu'il est possible de faire vivre dans l'actualité cette commémoration du judéocide. Et c'est ce que faisait Jean Kelevitch, que j'ai été heureux de voir cité, venant de publier un ouvrage préfacé par Filonenko, que je présente sur Radio Judaïque dimanche à 11h. Voilà les remarques que je voulais.
Je vous remercie de ces remarques. Elles me donnent l'occasion, puisque nous parlons de radio, de vous renvoyer aussi, grâce à la Internet n'a pas que des défauts, grâce à la technique du podcast, à une émission, une session de l'émission d'Antoine Garapon, une émission juridique sur France Culture, le jeudi, je crois, à 15h30, mais peu importe pour un podcast. Cette émission s'appelle Le Bien Commun, et il y a une quinzaine de jours, je crois, Antoine Garapon a reçu un spécialiste de la question, qui est Jean-Yves Montfort, qui est maintenant conseiller à la Cour de cassation, mais qui, pendant 10 ans, a présidé la 17e chambre du tribunal correctionnel, le tribunal de grande instance, donc la chambre précisément chargée des délits de presse. Et à ce titre, il a traité d'affaires concernant d'ailleurs aussi bien les historiens que les humoristes. Et le sujet, le titre qu'Antoine Garapon avait donné à cette émission était « L'immunité du spectacle satirique ». Existe-t-il une immunité du spectacle satirique? Et je vous incite, on a attiré mon attention sur cette émission et je l'ai écoutée avec vraiment beaucoup d'intérêt. C'est extrêmement précis, comme toujours, le langage juridique. Et le président Montfort, qui connaît bien cette question, a souligné non seulement, évidemment, qu'il était de la fonction du juge d'interpréter, c'est le cœur de ce qu'on lui demande, et soulignant d'ailleurs que ça ne plaît pas forcément, c'est jamais agréable de passer devant un juge, et donc que ça ne plaît pas forcément aux historiens, mais qu'il lui revient d'interpréter le message qui est transmis, non seulement, non pas le message brut, mais le message dans son contexte d'énonciation, et soulignant que la ligne étroite entre liberté d'expression et ces abus que la loi réprime, tel que vous l'indique ici l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, la spécificité de l'humour dont a parlé Sabina Loriga tout à l'heure, c'est que la notion de second degré doit être immédiatement accessible. Alors c'est un peu paradoxal, c'est-à-dire que le second degré, par définition, il ne faut pas qu'il soit immédiatement accessible, sinon il est un premier degré. Mais il faut bien qu'on soit placé dans une position où, quand je dis, j'allais dire blanc et noir, mais quand je dis A, vous entendez non A. Et que ce n'était sans doute, puisque l'émission est intervenue après les ordonnances du début du mois, ce n'était, aux yeux de Jean-Yves Montfort, mais qui n'était plus en fonction, ce n'était pas le cas des spectacles de Dieudonné. Alors, une deuxième question, là, madame. Voilà, vous l'avez.
Rosine Goldberg, moi, je suis avocate à Paris. Je voudrais juste que le président Montfort, ça me rappelle la jurisprudence de la 17e, à l'époque où il la présidait. C'est ça. On avait traité Faudécilla de gros ébus fous. Il a eu 1 franc de dommages-intérêts. Donc, c'était à l'époque Jean-Marie Le Pen. Donc la jurisprudence de la 17e sur ces questions-là n'est peut-être pas forcément toujours aussi exemplaire. Bon, je voudrais dire à Monsieur Olivier Cailhac, j'étais assez choquée par la comparaison qu'il nous a faite tout à l'heure. Nous comparer ce qui se passe dans l'intimité de 2 personnes sadomasochistes avec le voile et a fortiori le génocide, je trouve ça parfaitement déplacé. Il y a une question d'intimité certaine dans cette décision que vous n'avez d'ailleurs pas tout à fait citée, puisque vous n'avez pas cité les noms de toutes les décisions, ce qui est dommage pour ceux qui veulent aller voir plus loin. Mais la comparaison entre des sadomasochistes, le voile ou la burqa et le génocide, me paraît, ça me choque. Alors je tenais à vous le dire. Bon, voilà, c'est à peu près tout, et je vais laisser les autres parler.
Merci. On va laisser quand même Olivier Kella répondre. Non, il était difficile en 10 minutes de citer les arrêts, mais ils doivent être trouvés. Et d'autre part, je pense qu'il s'agissait globalement de la jurisprudence de la Cour européenne. Mais
non, mais il ne s'agit même pas de moi. Enfin, si vous avez été choqué, moi, j'y peux rien. Je suis désolé pour vous, mais c'est le Conseil d'État qui a dit ce que j'ai dit. L'intégration de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la RECA et AD contre Belgique à propos de l'affaire de sadomasochisme, a été prise en considération par le Conseil d'État dans son rapport à propos de la consultation qui a été faite à propos de la loi sur le voile islamique, pour dire précisément qu'il rompait avec l'attitude qui avait été la sienne au moment de l'arrêt de l'ancien nain. Donc, si vous voulez, je suis bien d'accord pour dire qu'il y a peut-être des choses qui doivent être un peu distinguées, mais encore, à vrai dire, non, parce que juridiquement, le problème est le même dans tous les cas. La question est de savoir, dans tous les cas, si oui ou non l'argument de la dignité peut être opposé à un individu lorsque celui-ci prétend pouvoir mener une activité qui ne concerne pas autrui, mais qui ne concerne que lui-même. C'est tout. C'est la seule question est commune à toutes ces affaires.
Non, mais
Donc, il se trouve que c'est sur ce point précis que le Secrétaire d'État a pris des positions. C'est à ce titre que je le mentionnais. Mais ce n'est pas moi qui me suis lancé dans ce thème.
Il n'y a pas une activité d'être privée dans un cas et un aspect public dans l'autre. Le voile, c'est dans la rue. Les sadomasochistes, en principe, c'est chez eux.
Oui, mais c'est une affaire d'intimité de la femme qui veut se voiler, de l'image qu'elle a d'elle-même et de la liberté qu'elle prétend avoir de, si vous voulez, afficher ses convictions religieuses. C'est d'elle qu'il est question quand on lui dit qu'elle porte atteinte à sa dignité. C'est donc dans un rapport avec elle-même qu'elle prétend pouvoir précisément maintenir un minimum d'intimité.
Oui, ma question aussi, enfin ma remarque s'adresse aussi à M. Kella. Dans le cas de Dieudonné, vous dites, mais ce n'était pas certain qu'il allait dire ceci ou cela. Si, puisqu'il jouait tous les soirs la même pièce qui s'appelait Le Mur.
Mais justement.
Attendez, si vous permettez. D'ailleurs, lui-même a dit, après, quand les trois spectacles, puisqu'il y a trois spectacles qui ont été interdits, Nantes, Orléans et un à Paris, il a dit, je refais une autre pièce que j'ai écrite dans la nuit, de laquelle j'ai enlevé les propos antisémites. Ce qui est faux, d'ailleurs, il n'a pas enlevé les propos antisémites, parce qu'il y en a des tas dans la pièce telle qu'elle est maintenant, la nouvelle qui joue. Il a enlevé les aspects les plus choquants, notamment celui qu'il répétait tous les soirs dans la pièce Le Mur, qui était un appel à passer à la chambre à gaz, le journaliste Patrick Cohen. Donc, ça, il le répétait tous les soirs depuis des semaines en tout cas. Et donc, il n'y avait aucune raison de penser qu'à Nantes, à Orléans, où d'ailleurs au passage, il y avait une connotation locale, puisque le Loiret est un lieu où il y a eu des camps d'internement, et le maire d'Orléans en a parlé. Bref, il n'y avait aucune raison de penser qu'il ne répéterait pas ces phrases. Il les a enlevées, et lui-même s'en glorifie, même s'il utilise le deuxième degré dont il a été question tout à l'heure. Il les a enlevés à partir du moment où ce spectacle-là, Le Mur, a été interdit. Et donc, de ce point de vue-là, le fait qu'il ne puisse plus dire, alors même qu'il niait auparavant l'existence des chambres à gaz avec Forisson, maintenant, il ne les nie plus, puisqu'il propose d'y passer Patrick Cohen. Au fond, on a l'impression à vous entendre que, moi j'ai plutôt l'impression que dans le cas de Dieudonné et dans bien d'autres cas, ce qui est frappant, c'est pas tellement l'esprit de censure, c'est au contraire le très grand laxisme qui, depuis une dizaine d'années, en tout cas depuis 2006, son grand spectacle au Zénith, ou en 2008, quand il a fait venir Forisson sur la scène et lui a remis un prix. Donc Forisson, qui est le symbole du négationnisme interdit, qui est répréhensible au titre de la loi Guesso et au titre du dommage fait aux victimes. Donc c'est plutôt le sentiment, il est, avec toutes les amendes qu'il a eues, qu'il n'a pas payées, etc. Enfin bref, je passe la chronique, que dans son cas, comme dans bien d'autres, au fond, ce qui a caractérisé, c'est pas tellement l'excès de censure, c'est le laxisme, comme d'ailleurs pour d'autres jugements, comme le fait que Barbie a été jugée au bout de je ne sais pas combien de temps, que Touvier n'a jamais été jugé, ou que Mitterrand faisait déposer une gerbe sur la tombe du maréchal Pétain, avant 1995.
Bon, le problème que vous soulevez est au cœur de la question, mais il n'est pas si aisé d'y répondre que ça. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on parle de police administrative. La police administrative n'est pas de la répression pénale. C'est se mettre à l'abri d'une possibilité de porter atteinte aux droits d'autrui par un exercice excessif de la liberté individuelle. Mais cela dit, naturellement, il y a toujours au cœur du droit de la police administrative une possibilité de se tromper, parce qu'on parle de menace, et donc une menace, ça n'est pas une certitude. Donc les mesures prises préventives peuvent toujours avoir été indues, parce qu'en réalité, les choses auraient pu se passer autrement qu'elles se sont passées. Mais ce que je veux dire, c'est que, justement, ce qui allait un peu dans le sens que j'ai dit, beaucoup de monde a fait remarquer que, justement, dans le cas de Dieudonné, il s'agissait d'un spectacle vivant, et qui, par définition, par exemple, par différence avec le cinéma dont j'ai parlé tout à l'heure, peut donner lieu à des variations d'une représentation à l'autre, peut donner lieu, il n'y avait pas, vous voyez ce que je veux dire, de texte, à partir du moment, il y a des enregistrements qui permettent de dire ce qui s'est passé, mais ce qui va se passer dans l'avenir est quelque chose... Il y a des probabilités, mais il n'y a pas de certitude. Vous ne pouvez pas dire qu'il va se passer certainement, au propos d'un spectacle vivant, quelque chose qui, par définition, est vivant, c'est-à-dire n'a lieu que dans l'instant. Deuxièmement, considère que la question de fait, savoir si on doit pouvoir prédire avec un degré de certitude plus ou moins élevé à propos du 2D, est une question qui ne m'intéresse pas. Bien entendu, je suis de votre avis. Tout ce que vous avez pu dire concernant du 2D n'était pas... probablement pas douteux. Mais la question n'est pas là. La question est de savoir si, une fois qu'on a admis qu'une telle mise en œuvre de la police administrative était possible, est-ce qu'il n'y a pas d'autres cas dans lesquels on pourra l'appliquer de la même façon et à ce moment-là, rentrer dans une sorte de risque d'arbitraire qui consisterait à ce que les maires puissent, dès lors qu'il y a quelque chose qui touche la sensibilité d'une partie de la population, considérer qu'il est légitime d'interdire la représentation pour ne pas prendre le risque que d'infraction soit commise. Si vous voulez, il y a quand même quelque chose de très simple dans l'affaire Dieudonné, c'est que la voie normale pour le traitement de la question, c'est la répression pénale. Vous l'avez dit tout à l'heure, il a commis des infractions, il n'a pas payé ses amendes. Oui, il n'a pas payé ses amendes. Donc il faut sévir encore plus. C'est une infraction de ne pas payer ses amendes, c'est une infraction de se mettre en insolvabilité. Et c'est d'ailleurs précisément le but de toutes les enquêtes et les perquisitions qui sont faites actuellement pour tâcher de progresser sur cette question. Mais je veux dire, c'est pas parce que c'est toute la question de la récidive aussi dont il était fortement question ces dernières années notre président précédent. C'est-à-dire que quelqu'un menace, du fait de ses activités passées, de commettre ou de répéter des comportements délictueux qu'il a pu avoir dans le passé, n'est pas un argument en soi suffisant pour considérer qu'il faut préventivement, interdire toute activité. Sinon, à ce moment-là, où est la limite ?
Je vais vous passer la parole, mais j'avais deux remarques par rapport à ça, sur l'articulation prévention-répression. Est-ce que toute personne, et je pense qu'on touche aussi à des conceptions assez profondes sur ce qu'est l'État, sur ce qu'il a le droit de faire et de ne pas faire, et est-ce qu'il n'est pas, si on sait, on a de très bonnes raisons de savoir qu'un délit, a fortiori un crime, va être commis, est-ce qu'il n'est pas de la responsabilité de toute personne le sachant, et a fortiori de toute autorité publique le sachant, de mettre tous les moyens en œuvre pour éviter ce crime, de manière générale, indépendamment du crime spécifique et des dispositions extraordinairement libérales, puisqu'on a parlé en Allemagne, au contraire, d'un régime de déclaration. En France, c'est un régime extrêmement libéral. Hein. La liberté de réunion, liberté d'association, on le sait, sont des libertés républicaines fondamentales, anciennes, et donc correspondant à cette idée qu'avait la Troisième République d'un très vaste champ d'autorisation. Donc ça, d'une part, est-ce qu'il n'y a pas de toute façon entre répression a posteriori et prévention du délit ou du crime, est-ce qu'il n'y a pas là aussi un équilibre ? Est-ce qu'on ne peut pas simplement dire tout régime de police administrative est en soi dangereux ? D'ailleurs, il y a bien des cas dans lesquels il existe des régimes de police administrative spéciale pour tel ou tel type d'activité. Et d'autre part, la réponse par rapport à cet argument, celui de la pente glissante ou celui de si on pose cette possibilité pour l'État, pour la puissance publique, d'interdire une réunion, une expression de nature A, alors tout est possible. En théorie, sans doute, en casuistique, sans doute. Est-ce que précisément... Hoffmann-Glemann n'est pas là pour dire là, on ne parle pas tout à fait de la même chose que du reste. Tu vois, donc j'ai l'impression que c'est cette double articulation qui peut-être sous-tend ces jalons, ces trois petits cailloux, Benjamin, Morsan-sur-Orge, Orge. Mais il est vrai que cette notion de dignité est tellement vaste que...
C'est un peu le problème, oui. Ouais. C'est un peu le problème.
Il y a deux... Oui. Je voudrais prendre la parole, Bernard Richard, historien retraité. J'ai travaillé sous le régime Pinochet comme attaché culturel, et là, on avait des artistes qui refusaient de donner leurs textes aux autorités publiques en disant que c'était de la commedia dell'arte, qu'il n'y avait pas de texte. J'imagine que Dieudonné, dans un contexte tout à fait différent, joue la même chose. Mais ce qui m'étonne, moi, c'est qu'on se permette de critiquer ce que vous appelez la police administrative, son intervention, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une énorme défaillance de la justice ? Si on dit qu'il est probable, il était probable qu'il tienne des propos interdits parce qu'il tient des propos interdits depuis des années, comment la justice n'était pas intervenue pour interdire ces propos ? Et si elle est intervenue simplement par des petites amendes qu'on se permettait de ne pas payer, il y a quand même une défaillance de la justice. Si l'État policier est obligé d'intervenir, c'est parce que la justice n'a pas fait son travail, n'a pas appliqué les lois qui permettaient d'interdire les propos antisémites. Il y a longtemps que ces spectacles auraient dû être interdits par la justice. Et on s'est étonné quand M. Valls est intervenu. Bon, certains parlent d'opportunisme politique, etc. Mais s'il est intervenu, c'est à cause, je pense, d'une défaillance décennale de la justice, si ça date depuis 2004 ou...
Est-ce que la justice peut interdire ?
J'ai pas vocation à répondre, mais je veux dire, très exactement, c'est moi le sentiment que j'ai et que beaucoup de juristes ont, c'est que ce que traduit cette affaire Dieudonné, c'est les grandes défaillances du fonctionnement de la justice pénale. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'interdire, mais il s'agit de poursuivre. Quand des faits délictueux ont été commis, il faut les poursuivre. Et incontestablement, le fait qu'il ait pu être condamné à payer des amendes, ça paraît quand même, étant donné la gravité des faits, quelque chose d'un petit peu... La question de la qualification, évidemment, contravention, délit, crime, c'est des choses qui peuvent... Et deuxièmement, qu'il ait pu être condamné, mais sans qu'il ait jamais été vraiment capable, enfin, mis en mesure de payer ses amendes, c'est quelque chose qui présente quand même un caractère relativement étonnant. Et donc, c'est tout simplement de ça qu'il s'agit. C'est la question de la justice pénale qui est normalement la voie indiquée pour le traitement de la question. C'est pas la police administrative, c'est pas... Normalement, si vous voulez, ce qui paraît le plus approprié, la police administrative répond à des préoccupations d'un autre ordre.
Mais je rebondis sur la question, l'intitulé de la question. La justice pénale peut-elle interdire ? Peut-elle ?
Non.
Donc ça veut dire que tous les...
La loi pénale interdit, mais la justice qu'on tire les sanctions de la violation de la loi pénale, ce qu'on appelle des infractions.
Donc il y aurait répétition et autant d'instances que de... Imaginons que tous les soirs, c'est d'ailleurs sans doute ce qui s'est passé, tous les soirs, les mêmes infractions, les mêmes délits soient commis.
Bien sûr.
Donc il n'y a aucun moyen.
Le moyen, c'est de poursuivre. C'est d'intenter. c'est simple. C'est simple.
Bonjour, je m'appelle Isabelle Hulerne. Je suis plutôt philosophe. Je collabore aux ateliers sur les usages publics du passé. Pardon, excusez-moi. Je voudrais poser une question, ou plutôt partager une grande perplexité. Parce qu'en fait, on a aussi un problème avec la démocratie. C'est-à-dire qu'on sait que la démocratie a absolument besoin, et vous le montrez aujourd'hui une fois de plus, comme l'émission Bien commun que vous avez évoquée l'avait également indiqué, d'une trame juridique très serrée, très attentive, très minutieuse dans le rapport entre la loi, mais c'est-à-dire la Constitution, la société, pour précisément qu'on puisse se réguler, s'orienter dans ce genre de situation difficile, voire grave. Pour autant, à vous écouter, ce qui me vient, c'est un certain nombre de perplexités. Il ne s'agit pas de... Bon, je l'ai dit. D'abord, au niveau éthique, premier. Bien évidemment, quand un arrêt arrive dans l'actualité qui permet de stopper quelque chose dont on sait que ça a été délictueux, que ça va recommencer et que ça ne s'arrête pas. On est, en termes éthiques, profondément, c'est-à-dire radicalement, soulagé. Mais la même personne qui est radicalement soulagée peut être aussitôt, pour des raisons très fortes, inquiétée pour les raisons que vous avez évoquées, M. Kayla, c'est-à-dire nous voilà dans une situation où, au fond, la société civile peut se réjouir que la démocratie en appelle à des censures que la même aspiration au meilleur régime n'accepterait pas de la part de l'État. Et donc on en est conduit à des positions limites au sein d'une même conscience, qu'elle soit collective ou individuelle, celle du sujet de droit, à avoir des avis contradictoires dont on ne peut pas faire l'économie et on n'est pas sûr qu'on puisse les résoudre. Et je pense qu'on a là une problématique très puissante, que toutes les pensées philosophiques de l'espace public ne parviennent plus à nous permettre d'appréhender. Au fur et à mesure qu'on s'est détaché des morales avec des substances fortes, normatives, et qu'on espère avoir une morale vidée de sa substance qui fonctionne comme un horizon régulatif, on en appelle à la justice pour tenir lieu de cette morale que nous voulons vider de son moralisme. Et là, on a, et ça s'entend dans certaines formulations complexes, notamment la notion, le recours à la notion de dignité, mais aussi certaines des formulations que vous avez évoquées dans, concernant le cas allemand, où on ne sait plus trop, on essaye de dire sans dire, interdire sans interdire, en faisant attention à ce qu'on interdit. Et en même temps, ça donne des jugements très précis, mais en même temps, sur le plan de la réflexion politique du citoyen ordinaire, ça devient très difficile à tenir, disons, dans le fort interne, mais aussi dans la conscience publique, la conscience partagée. Voilà. Mais ce sont des perplexités, hein, c'est pas, je voulais partager.
Merci. Je ne sais pas si ça appelle véritablement de... Bon, ça pose la question. Moi, j'allais dire, en néophyte du droit, ou... J'ai horreur de cette expression, je ne suis pas juriste mais, ou je ne suis pas historien mais, ou je ne suis pas ceci mais. J'ai essayé, pour faire ce livre, de lire du droit, et j'ai essayé de le comprendre, et j'ai essayé de transcrire ce que je comprenais. Et notamment, lorsqu'on lit ce qui est construit au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, on se dit bien que ce travail de construction successive, problématique, parfois à tâtons, hein, on a suivi... Jusqu'à 2014, l'évolution de la notion de dignité dans le droit français depuis 1995. Mais ce qui se construit par la Convention européenne des droits de l'homme et l'interprétation qu'en ont fait successivement la Commission puis la Cour européenne, c'est sans doute bien quand même cette morale collective des droits de l'homme, qui est grosso modo le contenu de ce sur quoi nous vivons depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, hein, ce substrat normatif que la collectivité européenne s'est donné, et les choses évoluent selon les pays, selon les époques. On est aussi hic et nunc. C'est pour ça que les solutions de 1933 ou de même 1995 ne sont plus celles d'aujourd'hui. Et c'est comme ça que j'ai l'impression que c'est le travail, et il n'a pas le choix, que doit faire le juge précisément face à ce type de dilemme.
Je voulais revenir sur certaines notions, puisque Marc-Olivier Baruc a posé la question de savoir si la loi peut interdire. La loi pénale réprime. Elle intervient a posteriori, après la publication du texte. En l'occurrence, la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse pose pour principe, en article 1, que la presse est libre, et apporte une myriade d'exceptions par la suite qui sont passibles des tribunaux. Mais encore une fois, il s'agit d'un appareil répressif. Le juge judiciaire agit après publication du texte. La décision qui vient d'être rendue par le Conseil d'État reprend la notion d'ordre public qui, lui, intéresse la notion de police administrative qui, elle, est d'ordre préventif. On anticipe l'infraction et on s'efforce de la prévenir. Et en l'occurrence, la nouveauté avec cette décision du Conseil d'État, c'est que le Conseil d'État a considéré que, finalement, c'est inscrit dans le marbre de sa jurisprudence maintenant, l'antisémitisme, ou plutôt l'expression de l'antisémitisme et l'expression du négationnisme, était attentatoire à la dignité humaine. Et dans ces conditions, il est possible d'interdire un spectacle de nature antisémite. Mais là, nous sommes dans le domaine du préventif, ce n'est plus la loi pénale, c'est le Conseil d'État qui contrôle l'action des autorités administratives au titre de la police administrative. Je voudrais revenir juste sur une notion qui m'amènera à poser une question, et une seule question, c'est la notion de négation de l'histoire. De quoi parle-t-on ? On parle du négationnisme, visiblement, de la solution finale de la Shoah, du génocide juif. Qu'est-ce que le négationnisme ? C'est une entreprise de négation absolue de l'ampleur ou de la réalité de l'extermination des juifs par les nazis. C'est une propagande qui a été inaugurée par les nazis, qui a été reprise par, depuis 70 ans par divers marginaux d'extrême droite, qu'il est inutile de nommer, et qui a pour finalité finalement de faire passer les juifs pour des menteurs, les juifs pour des exploiteurs. Ils ont inventé la solution finale pour obtenir des bonifications indemnitaires et leur propre État. C'est ce qu'ils disent, les négationnistes. Mais c'est aussi, et je crois que c'est important dans le cadre de notre discussion, c'est aussi un discours qui a pour objet la réhabilitation du nazisme. C'est-à-dire que le nazisme, en la circonstance, est lavé de son crime le plus abject, qui est l'extermination des juifs, en l'occurrence. Une extermination industrielle, programmée, et qui a fait l'objet d'une historiographie extrêmement vaste, mais qui, pour autant, reste véritablement, comme l'ont dit deux historiens britanniques, le crime absolu. Est-ce que, et c'est là que j'arrive à ma question, est-ce que, dans ces conditions, on n'a pas une explication du fait que, par exemple, le génocide arménien ne fasse pas l'objet d'une telle protection ? Puisque dans le cadre du génocide arménien, nous avons aussi une campagne de dénégation systématique qui vient non seulement du gouvernement turc, mais aussi d'affiliés du gouvernement turc. La première campagne de négation sur Internet d'un crime contre l'humanité, d'un génocide, c'est ce négationnisme du génocide arménien dans les années 90. Mais pour autant, nous sommes donc dans un discours qui nie un crime absolu, qui présente, deuxièmement, les Arméniens comme des menteurs et des personnes qui tentent d'en profiter. Mais pour autant, on n'a pas affaire au nazisme. Nous avons affaire à un génocide qui a été commis par un État, l'État turc, au cours de la Première Guerre mondiale, et qui, dans ces conditions, amène imperceptiblement à considérer que nous ne sommes pas dans le même registre. Thomas Hoffmann, il parlait de la Constitution fédérale allemande qui avait bâti le régime ouest-allemand qu'il avait bâti comme étant un contre-modèle, je crois que c'était votre terme, du nazisme. Finalement, notre Constitution s'est également bâtie comme un contre-modèle du nazisme. Mais est-ce que dans le génocide arménien, il n'y a pas ce presque déficit mémoriel qui entoure en France la perception de ce génocide et qui, du coup, interdit de considérer qu'on puisse sanctionner, a posteriori, sa négation. Je ne sais pas si j'ai été très clair dans ma question, mais est-ce que finalement, le négationnisme du génocide arménien, c'est presque la même chose que le négationnisme de la solution finale ? Est-ce qu'il n'y a pas des dimensions
métriques ? Monsieur, je vous donnerai la parole après, mais Claire Mouradian va sans doute poser une question complémentaire de celle-ci, et on y répondrait collectivement.
Il m'a tendu la perche tout à l'heure en évoquant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, je voulais avoir votre avis sur le dernier arrêté de la Cour européenne des droits de l'homme qui a condamné la Suisse pour avoir condamné un négationniste notoire, Perinček, qui était en plus affilié, enfin proche des loups gris, et qui est allé en plus exprès en Suisse pour faire acte de négationnisme, c'est-à-dire de provocation, qui a été condamné deux fois, en première fois et en appel. Et là, c'est la Cour européenne des droits de l'homme vient de lui donner raison. Donc, il y a un long arrêt que vous connaissez certainement, donc j'aurais voulu avoir votre avis là-dessus. Et puis plus récemment en France, un ami a été aussi condamné pour diffamation d'une négationniste du génocide des Arméniens, qui a manifesté elle aussi contre le mémorial arménien de Lyon. Et alors que ce délit n'existe pas de fait en France à propos du génocide arménien, mais c'est disons à propos d'un papier qu'il avait fait dans le journal, qui a été condamné. Donc, je vais avoir votre avis là-dessus. Et bon, sur la différence, c'est que l'État turc successeur a avalisé les crimes antérieurs parce que c'était les mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de dénazification, entre guillemets, il n'y a pas eu de déjeune turquification réelle après.
Alors, peut-être sur cette question, au moins pour exposer les grandes lignes de cet arrêt tout récent aussi, hein, 17 décembre 2013. Donc, on voit qu'on est là dans une sorte de continuité contingente, mais peut-être Thomas, quelques mots pour préciser ce qu'est cet arrêt.
Alors c'est un arrêt donc en effet qui faisait suite à la condamnation en Suisse de c'est Dogu, son prénom je crois Dogu Perinček, qui avait déclaré en Suisse que le génocide arménien était un mensonge arménien, quelque chose comme ça. Et il avait été condamné sur la base d'un article du code pénal suisse qui, contrairement à ce qu'on trouve dans les autres pays qui répriment, qui interdisent spécifiquement le négationnisme, la loi suisse interdit la négation, la justification de tout crime contre l'humanité, pas seulement des crimes commis par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Avec la condition supplémentaire que les propos doivent être tenus dans un but d'incitation à la haine, etc. Et donc, M. Perinchek avait été condamné pour ses propos en Suisse, et la Cour européenne des droits de l'homme, en effet, a jugé qu'il s'agissait là d'une atteinte non permise à la liberté d'expression. Elle a condamné la Suisse pour avoir condamné Perinchek. Alors c'est un arrêt qui est intéressant, c'est un arrêt en effet qui est très long, c'est un arrêt auquel est joint une opinion concordante de juges qui disent aux Arméniens ne nous comprenez pas mal, il ne s'agit pas d'accepter ce qu'il dit, etc. Une opinion dissidente donc qui va évidemment contre l'opinion de la majorité des juges. Alors il y a beaucoup de choses dans cet arrêt. Il y a des choses assez maladroites, je trouve. Il y a par exemple une référence à la décision du Conseil constitutionnel français sur cette question de la contestation de l'existence du génocide arménien. Et cette référence, il me semble, fait dire beaucoup plus au Conseil constitutionnel que ce qu'il ne disait lui-même dans cette décision, parce que cette décision du Conseil constitutionnel, elle ne veut pas dire grand-chose, en fait, si on la lit d'assez près. Et l'autre chose, mais là je crois que c'est un petit peu la faute de la Suisse, qui, après j'ai compris, avait beaucoup argumenté sur cette question de consensus mondial sur le génocide arménien. Donc la Cour a dit oui, mais il y a certains États qui ne le reconnaissent pas, donc est-ce qu'il y a vraiment un consensus? En fait, la vraie question, à mon avis, n'était pas celle-là. La vraie question, et qui est aussi abordée par la Cour, c'est de savoir, l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit la liberté d'expression, il dit qu'elle peut être limitée pour protéger un certain nombre de choses, notamment les droits et la réputation d'autrui, pour éviter la violence, etc. La question, c'est de savoir est-ce que la contestation de l'existence du génocide des Arméniens porte atteinte à la réputation ou aux droits d'autrui? Est-ce qu'elle risque de provoquer à la violence? C'est ce type de question, c'est cette appréciation-là qu'il faut faire. La Cour européenne des droits de l'homme dit non, au contraire de la négation du génocide des Juifs, la contestation de l'existence du génocide arménien, elle ne crée pas ce type de conséquences qui justifierait une interdiction. Le Conseil... Voilà. Le Conseil constitutionnel en France, lui, n'a même pas eu le courage de dire cela, si c'est ce qu'il pensait. Il a tenu une argumentation, à mon sens, pseudo-juridique, sans répondre à la véritable question. L'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme en France dit que la loi ne peut punir que les actions nuisibles à la société. Donc est-ce que la négation du génocide arménien est une action nuisible à la société, ou bien est-ce qu'elle ne l'est pas suffisamment? Est-ce qu'il faut la contrebalancer avec des intérêts de relations avec la Turquie, etc.? C'est une question politique que le Parlement n'avait pas abordé non plus, parce que le Parlement a dit « puisqu'il y a eu un génocide contre les Juifs et que la négation est interdite, il y a eu un génocide contre les Arméniens, il faut en interdire la négation ». Ce n'était pas ça la vraie question. La vraie question, c'est quelles sont les conséquences de cette expression? Comment apprécier ces conséquences? C'est un choix politique que le Parlement n'a pas osé faire, que le Conseil constitutionnel n'a pas fait non plus, que la Cour européenne des droits de l'homme, elle, a fait, mais dans un sens défavorable aux Arméniens. Oui, mais elle aurait pu, comme le Conseil constitutionnel, argumenter d'une manière... se cacher derrière autre chose.
François Danon, je vais m'écarter un peu du droit. Je voudrais revenir sur l'intervention tout à fait intéressante de Mme Loriga. Est-ce que vous pourriez redévelopper, approfondir sur l'événement lui-même, c'est-à-dire ce dont vous parlez de bouleversement de l'espace privé-public? Est-ce que vous pourriez reprendre cette notion? Parce qu'il y a un aspect de sidération dans ce qui se passe. Moi, la question que j'ai tout le temps, mais pourquoi? Qu'est-ce qui explique, ou une chronologie historique qui peut expliquer un tel événement, et en abandonnant quelques instants le droit, c'est-à-dire cette demi-journée avec un ministre de l'Intérieur, les plus hautes autorités juridiques, et donc en effet un bouleversement de l'espace, un espèce d'étouffement, d'envahissement par cette affaire. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus? Et est-ce qu'il y a des événements historiques un peu comme ça à l'étranger qui pourraient expliquer? Et voilà, c'est ça la question. Ce bouleversement absolument stupéfiant, et qui continue à coller, une espèce de traînée qui n'arrête pas. La preuve, c'est qu'on est là aussi. Vous voyez, quelque chose qui scotche et qui envahit incroyablement l'espace en 2014. Voilà.
Je vous remercie. Je ne suis pas en mesure d'approfondir beaucoup. C'est-à-dire, c'est l'une des questions qui, pour moi, très importante, c'est justement le changement, Isabelle Huller vient de l'évoquer, on pourrait dire la question de l'espace public telle qu'elle avait été, par exemple, définie par Habermas, semble aujourd'hui quelque chose d'anachronique. C'est-à-dire, donc, nous avons justement un mélange d'espaces différents qui pose problème. Alors, je n'ai pas de réponse. Je sais que c'est une question sur laquelle il me semble que nous, historiens, juristes, sociologues, etc., il faudrait creuser davantage les transformations de l'espace public aujourd'hui. Comme je l'ai dit, je pense que maintenant c'est un peu un type idéal, c'est-à-dire l'espace de l'humorisme de manière idéale devrait marcher selon le style du carnaval, c'est-à-dire espace étant fermé quelque part. Dans cet espace, on peut dire n'importe quoi, on pourrait dire, justement parce que avec l'idée qu'il y a cette immunité renforcée et que c'est une immunité qui génère, qui, je dirais, nourrit notre capacité critique. Mais une fois qu'il n'y a plus de dedans et de dehors, que, donc justement Forisson sur la scène, Dieudonné politique, etc., s'implique qu'il y a que cette idée de l'immunité renforcée, je ne fais pas un discours de la part du droit, je ne sais pas comment on peut gérer cette question d'un point de vue juridique, mais en tant que citoyenne, je dirais même pas en tant qu'historienne, en tant que citoyenne, il me semble qu'il y a un problème. Et ce problème me semble de plus en plus important, pas seulement en France. C'est, bon, je ne vais pas, je dirais, citer toutes les traces que j'ai trouvées en Italie sur cette question, mais je cite seulement un épisode. Et bon, tout le monde, j'imagine, a entendu parler du succès du mouvement 5 étoiles de Grillo en Italie. Et Grillo fait partie de cette galaxie qu'on pourrait définir complotiste, qui cherche sans cesse à légitimer à nouveau les protocoles des sages de Sion. Il y a quelques années, Grillo, lui aussi humoriste et en politique en même temps, il a comparé le président de la Fiat, Adolf Eichmann, et il a déclaré de préférer Adolf Eichmann au président de la Fiat parce qu'il avait gazé 3 millions de personnes pour un idéal, même si cet idéal est déformé, alors que le président de la Fiat a gazé des millions de personnes seulement pour s'enrichir. Dans les derniers jours, l'une des cibles principales de Grillo a été le journaliste Gad Lerner, que c'est actuellement l'un des journalistes le plus important en Italie, et qui a été pris à part avec des stéréotypes antisémites. Donc, sur le blog du Mouvement 5 étoiles, le nom du journaliste, Gad Lerner, a été déformé en Gad Merder, merde, ou bien en Gad Vermer, verme en italien c'est vert. Et Grillo a aussi déclaré: je ne ferai pas confiance à quelqu'un avec un tel nez, ou je l'enverrai bien se promener à Gaza avec sa calotte de juif sur sa tête. Lorsqu'on regarde dans les commentaires des supporters du mouvement 5 étoiles, on peut lire The Shoah must go on. Hitler était un fou, mais son idée d'éliminer les Juifs visait à éliminer leur dictature financière. J'ajoute, sur ça je termine, que la chose ne concerne pas, ça je pense que c'est important de l'ajouter, ne concerne pas seulement les couches les plus démunies, etc. Il y a un philosophe assez célèbre dans tout le monde qui s'appelle Gianni Vattimo, qui a été, je dirais, celui qui a lancé l'idée de pensée faible, grand interprète de Nietzsche et Heidegger, et qui a été députée européenne pour plusieurs partis et que récemment a manifesté son intérêt pour son souhait d'entrer dans le mouvement 5 étoiles. Et dans ses propos contre Israël, il a repris lui aussi le protocole des sages de Sion et il a dit « Pour être inventés, ils ont été inventés bien ». Or, cette phrase est une phrase épouvantable, même parce qu'elle rappelle une phrase prononcée par Mgr Ernst Juin, l'auteur de l'épérie judéo-maçonnique en 1932, qui avait déclaré « Peu importe que les protocoles soient authentiques, il suffit qu'ils soient vrais. Les choses vues ne se prouvent pas. La véracité des protocoles nous dispense de tout autre argument touchant leur authenticité. Je conclue en disant que Vattimo a également justifié ses affirmations avec le fait que la Federal Reserve est la propriété de Rothschild et de Rockefeller. Bon, peu importe que le premier n'est pas américain et le deuxième n'est pas juif, mais peut-être il s'est trompé de scène.
Merci. Monsieur, vous aviez une question?
Bonjour. Bonjour, Rémi Razenka. Je ne comprends pas la nécessité de certains à hiérarchiser les histoires, les crimes et les souffrances. Qui le fait? Je ne sais pas.
Dans le cas d'espèce, il y a eu véritablement à la fois une réaction politique et une réaction juridique. Je peux me tromper, que l'équivalent portant atteinte de manière comparable à d'autres souffrances. J'ai cité tout à l'heure ce que serait un, entre guillemets, humoriste suprématiste. Je pense que, dans le cas d'espèce, on assisterait... Enfin, j'ose pas dire, attendons de voir et espérons qu'on ne le verra jamais, mais il me semble que le raisonnement tenu aurait vocation à s'appliquer. Mais là encore, je ne suis pas juriste. Alain Parquet. Oui, Thomas.
Je crois en effet que la référence à la vie Hoffmann-Gleyman, elle est juste dans la première ordonnance, après elle n'y est plus. Je crois que vraiment il n'y a pas cette idée-là au sein des ordonnances du Conseil d'État. Le fondement de ces ordonnances, c'est qu'il était certain que des propos pénalement répréhensibles allaient être tenus, et des propos qui provoquent à la haine, à la discrimination raciale. Donc si vous voulez, pour un humoriste qui axerait tout son spectacle contre les musulmans ou contre les noirs ou que sais-je, moi, de mon point de vue, le même raisonnement s'appliquerait.
Pas tout à fait non plus, parce que le fait que la dignité humaine soit dépeinte comme étant une valeur issue de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et par ailleurs portée par la tradition républicaine, est directement issue de l'avis Hoffmann-Gleyman, et ne pouvait pas être issu d'un autre avis, puisque jamais on avait rattaché la dignité à la Déclaration des droits de l'homme. L'interprétation qui prévalait jusqu'ici était au contraire de la rattacher au préambule de garantie, ce qui est évidemment impossible à invoquer dans le cas Hoffmann-Gleyman concerne le Vichy, donc antérieurement à 46. Mais c'est surtout ce qui a prévalu, alors chez les philosophes d'ailleurs beaucoup, dans la promotion dont la dignité a fait l'objet ces 20 dernières années, c'est de la faire jouer dans un sens qui soit plutôt hostile à la notion de droit de l'homme. C'est les philosophes les plus contestataires de la notion de droit de l'homme, ceux qui s'inscrivent dans la lignée de beaucoup de monde, Michel Villet par exemple pour le cas des Français, qui invoquait la notion de dignité pour prêt. Donc c'est ça qui est surprenant, mais c'est ça qui donc fait qu'on est bien obligé d'accorder à Hoffmann-Gleyman un poids dans cette jurisprudence actuelle qu'on ne pourrait pas ne pas apercevoir. Et donc pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur, le problème d'Hoffmann-Gleyman, c'est quand même qu'elle... Alors, ce n'est pas dans l'arrêt lui-même, mais c'est dans les conclusions de ce qu'on appelle le rapporteur public, qu'on appelait commissaire du gouvernement avant.
Pas suivi.
Dire que c'est pas suivi, on n'en sait rien.
Si, parce qu'il avait suggéré tout à fait autre chose que le Conseil ne reprend pas du tout.
Le
dispositif est tout à fait différent.
Il avait suggéré en tout cas de ne consacrer que strictement la question de la réparation, strictement à ce qui est lié au crime contre l'humanité tel que ça découle de Nuremberg. Et c'est ce qu'a fait le Conseil d'État. Et donc, ça exclut donc par la même occasion, et c'était évidemment l'office de l'opération Fangleman, toute autre demande de réparation pour d'autres crimes contre l'humanité qui auraient pu être invoqués par des minorités qui s'estiment être lésées, etc., dont la mémoire n'a pas... Tu vois ce que je veux dire ? En fait, une hiérarchisation entre les mémoires, clairement, est opérée dans cette série de décisions depuis l'arrêt Papon, l'avis of Fangleman, et c'est très clairement... le problème, et c'est le problème, c'est justement que c'est le fonds de commerce de Dieudonné.
Mais juste, si je peux juste ajouter une chose, quand même, cette référence à Hoffmann-Gleyman et cette idée de la dignité issue, consacrée par la Déclaration des droits de l'homme, etc., c'est uniquement le 9 janvier, c'est supprimé dans les deux ordonnances suivantes. C'est pour ça que.
Y compris la question de la pression républicaine.
Oui, ça n'apparaît plus. La suite dit uniquement des propos. Des propos répréhensibles de nature à provoquer à la haine, à la discrimination raciale ou à porter atteinte à la dignité humaine.
Sans aucune autre mention à propos de la dignité. Oui,
alors, juste avant de passer la parole à Alain Parquet, ça veut dire aussi, par rapport à la question qu'on posait tout à l'heure, cette espèce d'accélération de l'espace public, que le fait que tout se passe pratiquement en temps réel et surtout en espace réel, et en espace même rediffracté, remultiplié, conduit peut-être, alors j'avais parlé tout à l'heure d'emballement, le juge aussi à aller un peu vite et que un référé doit aller vite, hein, et un appel de référé quand la manifestation a lieu deux heures après, encore plus vite. Mais du coup, on voit bien que les deux arrêts suivants, et donc je remercie Thomas Hochmann parce que du coup je vais les insérer aussi dans mon corpus, les deux arrêts suivants affinent, et au fond le juge se dit je vais quand même faire un droit un peu mieux poli.
Est-ce que ce serait quand même possible en droit, disons, de distinguer ce qui relève, ce qu'on peut considérer comme des opinions et des idées donc, auxquelles s'applique donc, le principe de liberté d'expression, et puis ce qui est attentatoire aux personnes, enfin que ce soit en tant qu'individu ou en tant que groupe. Je ne sais pas, est-ce que le racisme, c'est une idée, l'antisémitisme, la haine raciale, c'est une idée, enfin, est-ce qu'on peut considérer que le principe de liberté d'expression s'applique à des attitudes, à des comportements, surtout attentatoires aux personnes qui font violence.
Il y a des délits et qui sont caractérisés comme par certaines lois qui donnent, alors peut-être de manière imparfaite, parce que forcément générale, des définitions de ce qu'on appelle d'abord la diffamation, bien entendu, l'incitation à la haine, et puis l'effet de négationnisme qui font partie des crimes les plus précisément reconnus avec la plus grande vigueur depuis quelques années.
Là, on va peut-être faire un détour par le droit américain, puisque vous savez que le premier amendement de la Constitution américaine interdit au Congrès de prendre des lois qui porteraient atteinte au free speech. Et donc la Cour suprême américaine, mais Thomas Hochmann précisera ça mieux que moi, a dit qu'il y a un certain nombre de choses dites qui ne sont pas du speech, justement. Et Thomas
peut-être. Oui, c'est ça. Comme le premier amendement dit, le Congrès ne fera pas de loi qui restreigne l'expression, disons, le speech. La technique qu'a trouvée la Cour suprême pour accepter quand même un certain nombre de restrictions, c'est de dire oui, mais dans ce cas-là, c'est pas du speech, mais c'est plus un argument, une technique argumentative. Voilà. Mais sinon.
Mais ça a un siècle.
Oui, c'est ancien. Mais sinon, bon, voilà, c'est la pornographie, la diffamation. Certains disent la provocation, c'est plus une expression, c'est un acte. Mais bon, c'est pareil, ça relève de l'argumentation, ça reste quand même des expressions. Mais certaines sont interdites juridiquement.
C'est une question rapide, je ne sais pas si la réponse le sera. Alors, je ne suis pas juriste, mais. Il m'est arrivé de lire dans d'autres circonstances plusieurs fois l'avis Hoffmann-Gleyman, et ce que vous disiez tout à l'heure, Olivier Kayla, et ce qui du coup vient d'être redit, m'a beaucoup surpris sur l'idée que cet avis figerait dans le marbre le fait que ça ne peut pas concerner autre chose que le génocide des Juifs. Je viens de le relire en diagonale et de faire une recherche plein texte. À aucun moment il est dit que tout autre cas serait traité de la même façon. Et il me semble, et je me trompe peut-être, que ce qui vaut, ce qui fait droit, c'est bien l'avis et l'analyse qui suit, mais pas ce qui a été abandonné dans les débats qui ont précédé. Alors je me trompe peut-être, mais j'aimerais bien que vous, du coup, si je me trompe, que vous puissiez m'expliquer qu'est-ce qui fait que cet avis bloquerait dans le marbre une différenciation alors que rien d'autre n'est cité et qu'en l'occurrence, l'AVI rend une décision sur une demande quand même bien précise d'indemnisation d'une descendante.
Oui, c'est ce que la réponse que j'ai faite tout à l'heure à Marc-Olivier. L'AVI lui-même, il faudrait que, pour que je réponde à votre question, je relise l'AVI. Je ne vais pas le faire là maintenant, mais je vous propose de le faire et d'en reparler. Mais ce dont je parlais, c'était d'un passage des conclusions du rapporteur public qui incitait l'information de jugement dans ses conclusions à se limiter pour donner des possibilités d'impliquer l'État français dans la responsabilité des commis, des participations des crimes contre l'humanité au seul cas des crimes contre l'humanité définis par le tribunal de Nuremberg, autrement dit au cas du génocide et donc enfin de la Shoah. Et donc rien dans l'AVI ne dit le contraire non plus. Alors, je ne sais pas, il faut que je lise l'AVI de manière précise. Très clairement, de toute façon, c'était à propos de la Shoah que la question était posée. C'était... Mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué. J'ai lu des commentaires de plusieurs auteurs, de plusieurs professeurs disant la même chose, c'est-à-dire que cet AVI avait comme principal intérêt pour le Conseil d'État d'en même temps dire implicitement stop, on arrête là les frais, parce que déjà à l'égard des juifs il ne s'agissait pas de reconnaître droit à réparation nouvelle, on disait tout ce qui a été accordé jusqu'ici suffit et en outre, puisqu'on parle uniquement du cas de la Shoah et qu'on se limite à cette exclusive question, on se met à l'abri aussi d'ouvrir des procès contre l'État à propos d'autres affaires où on pourrait imaginer qu'il était complice de crimes contre l'humanité, dont en particulier la question de l'esclavage par exemple.
Oui, je veux dire, on a parlé de la hiérarchisation des souffrances, la hiérarchisation des mémoires, les Arméniens, les Juifs. Mais je pense que on n'a pas du tout parlé du fait que Dieudonné joue, instrumentalise, surfe beaucoup sur une souffrance actuelle, la souffrance des Palestiniens, qui est très différente en nature de celle des passés des Juifs ou des Arméniens, mais qui est actuelle, quoi. Et le grand écho qu'il peut avoir dans les banlieues tient à ce problème prégnant qui empoisonne l'Europe, l'Amérique, le Moyen-Orient plus encore, etc.
Bon, bah, écoutez, merci beaucoup. Je m'excuse auprès de l'organisateur d'avoir dépassé. Donc, il faut que j'aie le 10 et le 11 janvier aussi. Le 11 janvier.